Bonsoir à tous et bienvenue pour cette émission de rentrée de Deeply Rooted, dont c'était quitté pendant quelques mois, mais ça y est, on est de retour pour vous parler rap US et je suis toujours accompagné de mes acolytes, les mêmes que la saison dernière, à ma droite Momo.
Ok, le champion du peuple et okay, je suis très très content de revenir et vive la nouvelle saison de Deeply Rooted.
C'est vrai que ça nous manquait.
Ah bah de ouf.
Ça nous démangeait de reprendre. Et Joachim, en face de moi, toujours là.
Toujours là, ça fait plaisir de revenir, on reviendra plus fort et on va se régaler ce soir, j'espère en tout cas.
Yes, on vous a laissé sur une belle saison, j'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à aller écouter tout ce qu'on a fait l'année dernière, on a parlé de quoi ? De Los Angeles, de Houston, de Memphis, de Miami. Enfin, on a parcouru déjà un bon bout des États-Unis, donc n'hésitez pas à aller checker si ça vous intéresse sur les plateformes de streaming, sur notre page Facebook notamment, Deeply Rooted l'émission. Et alors, qui nous présente de quoi on va parler ce soir et même plus largement dans les prochaines émissions.
Ouais, bah du coup en fait, c'est vrai qu'on a mis du temps à revenir, mais au moins on prépare un truc assez vaste. On s'attaque à un gros morceau là ce soir, on va faire une trilogie en fait sur le style prédominant de rap actuellement, depuis même assez longtemps, ce qu'on appelle la trap music. Donc on va commencer ce soir par présenter un peu la genèse de ce mouvement et qui s'est un peu développé dans tout le sud, voilà, dans les années 90, ce qu'on appelait le Dirty South.
Du coup, dans cet épisode, on va un peu retomber sur nos pas, sur certaines scènes qu'on a pu voir ailleurs.
C'est ça, ouais, comme on est déjà pas mal passé par le sud. On va reparler un peu de certains trucs qu'on a déjà évoqués, on va faire un peu des renvois.
C'est tellement lié qu'on est obligé de revenir un peu là-dessus, quoi. Mais il va y avoir de la nouveauté aussi, c'est pas de la redite.
Ouais, et donc pourquoi une trilogie ? Parce que bah, c'est quand même un gros morceau, donc on va se donner le temps. En même temps, on voulait pas forcément intercaler plein de choses entre, donc on va vous proposer un gros morceau sur la trap.
Oui, puis c'est important parce que la trap, ça fait tellement longtemps que ça existe. Que tu vois, la trappe des débuts et de maintenant, ça n'a plus grand chose à voir. Ouais. Donc c'est important de bien expliquer, de bien montrer
son influence sur le rap tout court, le rap français,
ouais, etc. Ouais,
l'électro,
quand je dis que c'est dominant, c'est partout, que ce soit en France, aux États-Unis, mais aussi en France, dans d'autres pays, tu vois.
Donc vous êtes habitué maintenant nos Deeply Rooted, donc vous emmène visiter les racines du rap dans les différentes scènes. On va se balancer comme d'hab du gros son tout au long de l'émission, pardon. On commence Momo avec Goody Mob.
Ouais, et leur titre Dirty South.
Voilà, on va démarrer doucement dans la trap, mais vous allez voir, ça va prendre forme. On se retrouve tout de suite après ce premier son. À tout de suite. De retour dans Deeply Rooted avec ce son de Goody Mob, Dirty South. Et donc on l'a pas précisé au début de l'émission, mais on va principalement naviguer à Atlanta. Naviguer pas forcément parce qu'il n'y a pas beaucoup d'eau.
Pas du tout,
ma géographie est bonne.
Dans les robinets, oui, mais pas.
Il n'y a pas un fleuve qui passe, quelque chose comme ça ?
Non, pas du Mississippi.
Tu nous prends de court là.
Ok, donc Atlanta, et c'est toi Jojo qui va commencer avec cette première partie pour nous parler de.
Bah de. Ce qui s'est passé à Atlanta et notamment un énorme morceau, ce qui va mettre concrètement Atlanta déjà sur la carte du rap et même au niveau national qui va mettre la scène du sud, quoi, qui va les faire exister.
Parce que là, Atlanta, on en est où ? Quelle année ?
Alors en gros, du coup, Atlanta, bon, je vais reprendre les années 90 pour présenter un peu le contexte. Il y a la Atlanta Bass, donc qui est un peu un
équivalent de la Miami Bass.
Ouais, voilà, c'est un enfant un peu de la Miami Bass.
D'accord.
Il y a le label Soso Def de Jermaine Dupri qui est un peu plus axé R&B. Il y a eu Chris Cross, un petit duo de jeunes ados qui avait bien pété. Mais à part ça, il y avait aussi Arrested Development, avec le super accent, à Atlanta qui avait bien marché. Mais c'était vraiment du rap très new-yorkais. Enfin, très influencé par New York encore, pas très marqué en termes de son, il n'y avait pas de différence, quoi.
Ok, pas un particularisme.
Et il y a donc ce label qui s'appelle La Face. Je sais pas exactement comment ça va se prononcer, donc je prends pas de risque de dire La Face.
Non, c'est La Face, hein, je dirais pas La Face.
Ouais. Ouais. Parce que c'est Babyface et LA machin, donc tu vois, je sais pas trop les créateurs. Du coup, qui était plus en mode R&B à partir de la fin des années 80, enfin il s'est créé à la fin des années 80. Et le premier, la première signature hip-hop, c'est donc un duo qui s'appelle Outkast, que je pense pas mal de gens connaissent au-delà du rap. C'est pour ça en fait qu'ils vont vraiment donner une l'importance au Sud parce que ils ont eu ce succès qui a dépassé le cadre du rap. Donc je vais un peu revenir dessus. Là, on a écouté, on vient de s'écouter Good Imob, donc en fait qui sont leurs acolytes qui ont aussi été signés sur la Face, qui avait d'ailleurs Big Boy, le rappeur d'Outkast sur ce morceau, et ils ont vraiment apporté ce concept de Dirty South comme vraiment un truc, voilà, le parler au nom de tout le Sud et que le Sud existe. Et d'ailleurs, Outkast, donc, qui ont, sur leur premier single Players Ball, qui est tout de suite un succès en 93, il y a une cérémonie, je crois, je sais plus si c'est les Grammy ou un truc comme ça. Et André 3000, donc, qui est le deuxième rappeur.
Big Outkast, Boy et André 3000.
Big Boy et André 3000, voilà. Qui dit, en fait, tu vois, il faut présenter le contexte de cette cérémonie où au moment où tu as les guerres East Coast-West Coast, tu as tout le monde, enfin, ils se tirent tous la bourre, le Sud, ça n'existe pas, quoi, tu vois. Et là, bah. T'as un groupe du Sud qui reçoit un prix, tu vois. Et tout le monde eut, tu vois. Parce qu'ils se disent, c'est qui, c'est bouseux, c'est qui, c'est merde, tu vois.
Ouais, ouais.
Et donc là, t'as André 3000 qui prend le micro et qui dit, le Sud a quelque chose à dire, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc, c'est un peu une déclat qui fait naître, fait exister le rap du Sud dans la presse nationale, quoi. Enfin voilà, tout le monde maintenant a conscience que le rap, ça existe aussi dans le Sud, ça se fait aussi. Et
ouais,
ils ont leur mot à dire.
La couleur de ce qui va arriver par la suite, et
ouais.
C'est du très loin.
C'est ça, ouais, bah, je pense qu'ils ne croyaient pas si bien dire, puisqu'aujourd'hui, c'est plus dans le Sud qu'ailleurs que ça se passe, quoi. Mais donc, on va revenir quand même sur Outkast plus globalement. C'est un duo, donc, Big Boy qui est un peu plus en mode gangster, plus terre à terre, plus, voilà, un peu plus... Lui, il rappe, il chante pas beaucoup, il chante pas, d'ailleurs. Et André 3000 qui est un peu plus perché, qui chante, et il aime bien faire les refrains,
Techniquement, c'est une bête, non ?
Bah, techniquement, c'est une bête. Il est surtout super souple. Il a une voix incroyable, en fait.
Ouais.
Donc, il peut te faire des trucs mélodiques.
Ouais, il est généralement dans le classement des meilleurs MC.
Ouais, il y a quand même pas mal de puristes qui considèrent que Big Boy a mieux réussi sa carrière, ouais. En tout cas post-Outkast.
Toujours représentant des puristes à tout jamais.
Non, je dis pas que forcément que c'est mon cas. Mais...
Non, je plaisante.
Donc voilà, donc ils se rencontrent au lycée. Ils sont signés sur La Face en 92, je crois. Et donc c'est à la suite de leur premier single Players Ball que le succès vient. Et là, en fait, ils sont un truc aussi qui est important, c'est qu'ils enregistrent avec, ils rencontrent pardon le duo Organized Noize. Mm-hmm. Et c'est dans un des membres d'Organized Noize, donc ils s'enferment pour enregistrer leur truc. Tellement ils s'enferment qu'ils appellent cet endroit-là le donjon. Et c'est comme ça que naît la Dungeon Family, avec un peu d'autres groupes, d'autres rappeurs comme Good Imob.
C'est un collectif, quoi, en gros.
Ouais, c'est ça, c'est un des premiers gros collectifs de rap. T'as Good Imob, donc qui en fera partie. En fait, La Face, c'est un peu le.
Good Imob, c'est ce qu'on a écouté tout à l'heure qui était.
Voilà, c'est ça. Good Imob, c'est aussi le groupe de CeeLo Green, je sais pas s'il y en a qui connaissent, qui a eu une carrière un peu dans le. C'est plus un chanteur aussi, Soul.
Avec Gnarls Barclay. Et rap, quoi.
Voilà, Gnarls Barclay, par exemple. Donc voilà, il y a aussi Cool Breeze, enfin des mecs un peu moins connus. Faut savoir quand même que il y a un des membres de Organized Noize, et le cousin de Future. D'accord. Qui est un rappeur qui a commencé à vraiment briller dans les années 2010, quoi. Mais donc c'est un peu une grande famille, quoi, en fin de compte.
Et, okay. Donc là ils sortent des albums aussi avec la Dungeon Family.
Dungeon Family ont sorti un album en 2001, mais après c'est plus un truc, voilà, une sorte de d'émulation.
Créer ensemble.
Ouais, voilà. Donc tu vois, enfin.
C'est plus Outkast.
Good Imob sont souvent sur les albums d'Outkast, enfin surtout sur le premier, mais après Outkast aussi, enfin tu les vois un peu tout le temps entre eux, quoi. Et donc Outkast, leur discographie est quand même ultra impressionnante, il n'y a pas beaucoup d'équivalents, je trouve. En tout cas, les trois premiers albums, c'est assez monstrueux et on a l'impression qu'ils gravissent en échelon à chaque fois. Les deux premiers sont quand même très liés au Sud parce que le premier s'appelle Southern Playalistic Cadillac Music, donc il y a vraiment le délire Southern, quoi, du Sud. Le deuxième, c'est AT Aliens, donc ils partent dans leur trip un peu spatial, c'est des aliens, mais ils sont quand même de ATL, donc Atlanta. Les deux albums sont vraiment excellents. Et le troisième, c'est vraiment là ils partent vraiment les grosses expérimentations funk, des morceaux longs de 7-8 minutes avec une grosse plage instrumentale. Enfin, tu vois,
ils ont vraiment leur style.
Ouais, c'est très funk dans de manière générale. Ils sont vraiment complètement bousillés par la P-Funk, Sly Stone.
C'est même un peu rock après les albums. Non, ou c'est. Pas non, rock, c'est... mais disons qu'ils avaient des influences un peu autres quand.
C'est surtout ouais. André 3000 hein, qui
ouais voilà
qui
André 3000 expérimente à fond. Leur album d'après Stankonia, c'est en fait leur plus gros succès, c'est Stankonia et surtout après Speakerbox Love Below qui est un double album qui sont en fait un album solo de Big Boy plus un album solo de d'André 3000. En fait c'est parce qu'il y a des gros singles, il y a Mrs. Jackson sur Stankonia et qui est un énorme succès. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent que ce morceau et Heya du coup ouais, qui est Heya. Sur
ça c'est après
ouais c'est sur Love Below, enfin Speakerbox Love Below. Je vous avoue que personnellement que je déteste Heya,
bah moi aussi.
En même temps il était passé tellement
ouais non mais c'est ça en fait la première fois que tu l'entends tu fais ah ouais putain c'est bien, enfin c'est accrocheur quoi tu vois, accrocheur mais à bout d'un moment
moi je préfère Roses du coup tu vois, pour moi je continue à écouter cette chanson qui est sur
ouais,
le même
ouais,
album
Roses, cool.
Heya ouais c'est
ouais bah ouais je peux plus l'écouter en tout cas. Alors que tu vois, je surkiffe Outkast, et surtout les trois premiers, mais Stankonia, c'est quand même assez monstrueux aussi. Voilà, après, donc, dernier album Idlewild qui accompagne un film. Le film, leur film est un peu, qui s'appelle Idlewild aussi, un peu à leur image, c'est-à-dire que c'est très élégant, c'est un peu dans les années de Prohibition, avec des beaux costumes, des beaux décors, une belle lumière, des belles couleurs, tout ça, c'est assez classe. Il est pas incroyable le film, mais il se regarde bien. Et voilà, Idlewild qui est quand même considéré comme leur moins bon album. Franchement, t'écoutes Idlewild, si tu dis que ça c'est le moins bon album, ça pose quand même le niveau, je trouve.
Ouais. Eh bah oui.
Donc voilà, très bon album. Big Boy, il est encore un peu. Il a encore une vraie carrière derrière Outkast, quoi. Il a sorti un album en 2017, je crois. Et là, il va sortir un album avec Sleepy Brown, normalement, qui est un des membres d'Organized Noise. André 3000. Il est un peu perdu, il a fait de la musique pour enfants, il a fait un album de free jazz, enfin un EP de free jazz il y a un an je crois. Mais bon, ça se respecte, mais on aimerait bien le voir plus dans des trucs très rap, quoi. Enfin forcément.
Ouais, bon, après, pour tout ce qu'il a fait, on est déjà content.
Mais bon, en tout cas, voilà, Outkast, c'est
incontournable
pour le Sud. Ouais, bah, c'est T.I. justement dont on va
on va y venir doucement.
Qu'on va évoquer. Non, il disait que c'était. Enfin voilà, ce qui a fait démarrer le rap à Atlanta et même plus largement dans le Sud, c'est Outkast. Enfin, ça, clairement.
Clairement que vous conseillez d'écouter. On vous balancera comme d'hab des liens. Ouais, voilà, les liens, les albums, etc. Donc tous leurs gros classiques. On va quand même vous balancer au moins un son qui va être. Je te laisse le prononcer parce que c'est une espèce de phrase.
C'est donc le titre éponyme de l'album, du premier album, Southern Playalistic Cadillac Music. Donc voilà, très funk, très. Enfin, je trouve ça imparable. C'est. On vous laisse kiffer.
C'était donc Outkast avec Southern Playalistic Cadillac Music.
Bravo.
J'ai réussi à prononcer.
1 sur 20.
C'était cette première partie. Donc on est toujours dans Deeply Rooted pour vous parler de la trap. On y arrive doucement. On était à Atlanta, on va un petit peu bouger et retourner à un endroit qu'on connaît bien et que vous connaissez bien si vous avez suivi les émissions assidûment, c'est Houston, et c'est Momo qui va nous parler. Alors pourquoi retourner à Houston?
Pourquoi? Parce que Houston déjà c'est un peu une des capitales, on peut dire c'est comme ça, mais c'est une ville ultra importante dans le développement du rap dans le sud, bah, notamment avec DJ Screw. Avec le label Rap-A-Lot dont on vous a déjà parlé, je crois.
On avait évoqué un peu dans l'émission sur DJ Screw. Bah c'est le label de Ghetto Boys qui est le premier, un des premiers groupes de rap sudiste à se faire un nom.
C'est notre première émission à Houston, je crois.
Ouais, tout à fait.
Vous n'étiez pas encore là.
J'étais pas encore là. That's why.
Donc, allez écouter pour voir à quel point on a progressé depuis.
Ah bah déjà, vous avez plus que progressé quand je suis arrivé. Donc non, je plaisante. Et donc du coup, ouais, on va retourner à Houston parce qu'il y a aussi un groupe emblématique de là-bas qui s'appelle UGK, Underground Kings, composé de Bun B et Pimp C, qui est arrivé dans les années, allez, on va dire début des années 90. Alors pareil, en termes de sonorité, tout comme Outkast, il n'y a pas d'influence directement sur la sonorité, ça ressemble pas du tout à la trap de maintenant.
Dans le rap, dans la façon de rapper.
Sur la voix, les voix laid back un peu, c'est-à-dire genre les mecs ils rappent tout chousse genre au micro, ils sont tout détendus, des flows. Ouais, c'est des flows glissants, tout tranquille, tu vois. Là ça marque le truc. Il y a des productions quand même qui font plus proche de la trap, enfin des débuts de la trap.
Que... Bah, disons que surtout je trouve que UGK c'est vraiment le canon de ce qui était le Dirty South finalement. C'est peut-être plus Outkast qui a lancé l'idée un peu Dirty South. Mais après, tout ce qui se faisait à Houston, un peu, j'ai l'impression que même si s'il y a des trucs que je trouve géniaux, ça reste du sous UGK, tu vois. On pourrait plus dire ça, tu vois.
Bah, c'est. Ils sont arrivés très jeunes au micro, en plus, ces deux mecs-là. Et ils diraient que c'était le lifestyle du Sud, genre. Tu sais, c'est. Enfin, je vais vous faire une comparaison un peu bête, tu vois, mais genre, on va dire Paris et Marseille. Bah, c'est pareil, tu vois. Il se passe plus ou moins les mêmes choses à Paris et à Marseille. Et c'est pas le même cadre de vie, du coup. Et quand eux racontent la même chose que nous, au final, tu le ressens quand même différemment. Bah là c'était pareil, et à New York à ce moment-là ils étaient dans une ambiance un peu genre mafieuse, un peu gros gangster, alors que UGK ils sont arrivés en mode nous on est des jeunes dealers de drogue, ultra pas irrespectueux mais genre arrogant, et ils sont partis là-dessus direct, genre raconter leur quotidien de dealer de drogue, de crack même.
Et alors par exemple dans le DJ Screw on avait vu ça ralentissait grandement la musique, la trap on verra c'est quand même pareil, on a ce côté un peu ralenti, est-ce que déjà on a ça?
Oui c'est déjà genre le tempo il est plus lent sur ce que fait UGK.
Tu sens la lourdeur, la chaleur la chaleur bien lourde de Houston quoi. Ouais.
Et donc ils arrivent directement avec un premier album, en fait comme Outkast, premier album, Too Hard to Swallow, trop dur à avaler en français, on traduit. Premier classique direct, les mecs sont impétueux, genre Pimp C et Bun B se complètent super bien. Parce que Pimp C chantonne un peu, il est là un peu smooth, et Bun B c'est beaucoup plus rocailleux, pas plus street.
Pimp C il a un peu une voix de crapule, ça fait vraiment le crevard du quartier. Mais je suis sur fan de Pimp C.
Alors quand bien même ce serait un crevard, je kiffe aussi, mais quand bien même ce serait un crevard, c'est quelqu'un qui faisait aussi les prods de l'album, donc il est un peu dans les débuts de la sonorité de la trap. Bah, il y a mis son petit grain de sel au final. Et donc voilà, ils arrivent à créer vraiment une imagerie du Sud qui va, ils vont être connus régionalement dans un premier temps.
Ouais, c'est plus un succès d'estime vraiment. Et puis maintenant, aujourd'hui, tout le monde a l'impression que c'est des énormes classiques. Tout le monde, dans le Sud, c'est des légendes quoi. Mais à l'époque, il n'y a pas eu le succès que ça aurait mérité quoi. Ouais, commercialement, je veux dire.
C'était pas, la carte du rap, c'était New York et Los Angeles. Mais ils ont quand même réussi à percer, donc à vendre des disques, mais surtout à être connus nationalement quand le roi Jay-Z premier du nom a décidé de les inviter en feat. C'était début des années 2000, ouais, je crois que c'est en 2000, sur Big Pimpin', qui est un bête de tube de Jay-Z d'ailleurs. Et là, ils se font connaître nationalement, vraiment, et ça met pour le coup Houston et le Sud encore plus en avant. Et le truc, c'est qu'il y avait aussi 36 Mafia qui avait quand même commencé à percer à ce moment-là. Ils font un gros feat avec eux aussi qui s'appelle Sippin' on Some Syrup.
Caesarp,
ouais. Donc il sirote du sirop.
Qui est donc la ligne, hein, dans le sens.
On vous a longuement parlé dans l'émission de Houston.
Ça, vous savez ce que c'est que le sirop rose. Et donc voilà, ils se font connaître, mais bon, malheureusement, quand t'as du succès, bah t'as aussi le revers de la médaille. La Pimp C qui se fait incarcérer peu de temps après pour une attaque à main armée. Et là, il y a tout un délire où Bun B, ils sortent le slogan Free Pimp C, quoi. Genre, et tout le monde le reprend un peu dans le Sud et dans le rap, genre, faut libérer Pimp C.
Ce qui est devenu un peu maintenant une mode, dès qu'il y a un rappeur qui est incarcéré, il y a toujours un mec pour lancer le Free machin. Maintenant, c'est des hashtags, tu vois.
La crime, par exemple, tout à fait. Mais bon, il est au moins aussi important que Bun B, faut pas déconner. Et voilà, donc Bun B continue à porter le groupe sur ses épaules tout seul, à faire tourner le nom UGK. Pimp C va quand même ressortir de prison, faut pas déconner. Il n'est pas pris perpète. Ils sortent un dernier album ensemble, 2007, qui s'appelle Underground Kings, comme le nom du groupe. Et là, pour le coup, il y a vraiment tout le Sud dessus.
Il est magnifique, cet album.
Ouais, il est lourd de ouf. Tu retrouves Lil Jon dessus, t'as Talib Kweli, la prod, t'as plein de monde, il faut absolument.
Il y a Too Short, il faut toujours dire, il faut toujours le préciser, il y a Too Short. Il y a Outkast aussi.
Oui. Et malheureusement, dernier album. Parce que Pimp C, on vous parlait de la ligne, Pimp C est mort d'une overdose de ligne, il a été retrouvé dans son hôtel, mort, suite à une overdose. Donc RIP Pimp C. Et on est aussi à Houston pour un autre truc, c'est qu'il y a un autre groupe ultra connu, donc on vous a forcément cité quand on a parlé de Memphis, c'est Ed Ball et MJG, qui donc sont originaires de Memphis, mais ils se sont rendus compte en fait qu'à Memphis, là, il se passait rien, il n'y avait pas de vue, c'était pas YouTube quoi, mais il n'y avait pas d'exposition on va dire.
Ça streamait pas fort quoi.
Ah, ça streamait pas fort du tout quoi. Et du coup ils ont décidé de se délocaliser à Houston, et ils ont comment ils ont percé en fait. C'est simplement qu'ils faisaient un concert. Il y a un petit gars qui s'appelle Tony Draper qui les a vus en concert et qui a grave kiffé ce qu'ils faisaient. Vu qu'il les a kiffés, il leur a proposé d'aller enregistrer de la musique dans l'appart de sa copine du moment. Super sympa pour elle d'ailleurs. Et de là est né le premier album de 8Ball and MJG, pardon. Pas si évident à prononcer que ça. Et aussi la création du label de Tony Draper qui s'appelle Suave House et qui a eu un énorme impact en fait sur tout le sud. Parce que c'est ce qui a servi de modèle à Cash Money et à No Limit Records qu'on a vu dans l'épisode sur la Nouvelle-Orléans. Et pareil, c'est un mec qui était très bon en affaires, qui signait des gros contrats avec des maisons de disques. Les gars étaient ultra productifs. Ils arrivaient à faire des disques d'or quasiment toutes leurs sorties. Ils collaboraient vraiment entre eux. C'était un peu QLF comme on dit chez PNL. Et voilà. Et en plus de ça, 8Ball d'un côté et MJG de l'autre ont réussi à avoir des carrières solo, à sortir des très bons albums, enfin un album, je crois qu'ils en ont un chacun, peut-être deux, je sais plus.
En tout cas, il y en a un chacun dans les années 90, ouais. qui sont vraiment lourds. Après, je crois qu'ils sont plus ou moins restés en duo, mais il y a peut-être eu deux, trois autres comme ça.
Bah, ils sont partis, enfin ils ont eu leur premier album, deuxième, ensuite ils sont partis en solo, ils sont revenus avec In Our Lifetime dans fin des années 90. Et voilà, et donc ça, c'est une très belle épopée du Sud, et ça a vraiment aussi pareil aussi dans le style, et un peu dans la sonorité, et dans la mentalité sudiste, ça a propulsé.
En tout cas, en termes de nom de label, je trouve que Suave House, c'est magnifique, et ça correspond super bien, c'est très suave.
C'est vrai que ça envoyait bien. Mais en gros, les trois têtes pensantes de Suave House, c'était Tony Draper, le duo Draper, 8Ball and MJG, et T-Mix, qui était un peu le producteur maison, quoi. Et pareil, ce côté-là, on fait tout ensemble, tout est maison. Ça a beaucoup influencé dans le sud à travailler en équipe.
Ça s'entend à mort dans les autres aussi, les autres groupes qui ont été sur le label, tu entends vraiment cette signature-là. Quoi.
Carrément. Et il y a par ailleurs un autre mec qui a été connu un peu après, qui s'appelle Jazzy Faye, et qui a travaillé avec eux et qui est devenu un producteur à succès en même temps que Lil Jon, qui a fait des trucs pour Ciara, Usher, etc. dans une veine trap, mais côté R&B. Le
genre de mec que tu vois partout, t'as l'impression qu'il est toujours sur les albums.
Jazzy Faye.
Ouais.
Et voilà.
Ok, merci pour cette présentation.
Mais avec plaisir.
Maintenant, on va rentrer vraiment dans le vif du sujet de la trap d'Atlanta avec T.I. Mais d'abord, on s'écoute un son du GK qui est Murder. Et ensuite, T.I. donc avec Dope Boys. Avant d'aborder cette dernière partie.
Yes, oui.
Allez, à tout de suite.
À toute.
De retour dans Deeply Rooted, l'émission qui vous ramène aux racines du rap US. On vient de s'écouter UGK avec Murder et Dope Boys de T.I. dont on va longuement parler dans cette dernière partie, puisque c'est un peu la naissance de la trap. Clairement, voilà. Même si on veut lui disputer son titre de temps en temps.
C'est ce que j'allais dire, il y a un gros débat entre lui et Gucci Mane.
Voilà, quelques poils au rayon Jay-Z, un petit peu.
Bon, un peu moins, mais surtout Gucci Mane. Ouais. Mais bon.
Alors, qui c'est qui va nous raconter un petit peu l'histoire du bonhomme?
Je crois qu'on a tous notre mot à dire. On a tous T.I. On va dire que, en tout cas pour moi, ça, c'est un des rappeurs que j'ai écouté étant ado. Donc au moment où je commençais un peu plus à comprendre un peu ce qu'était le rap américain. Donc j'ai une affection particulière pour ce monsieur.
Je dois dire aussi que c'est un de mes rappeurs préférés, donc je ne vais pas être très objectif. Toi, Momo, je crois que tu le détestes, non?
Ah, pas du tout. J'aime quand même T.I. de son vrai prénom, Clifford Harry Smith. Toujours préciser les vrais noms des rappeurs. Et moi, je me le suis mangé, en fait, dès les débuts avec Trap Music, pas avec son premier album, M Serious, mais en fait, si tu sortais de la vague G-Unit, 50 Cent, un peu les conneries de New York de ce moment-là.
Du coup, quelle année? Parce que son premier album,
2002. M Serious, 2001.
Ouais, 2001, 2002.
Et Trap Music, 2003.
2003, ouais. Et après, il a été ultra productif. Urban Legend, ça sort l'année d'après. 2004, après 2006, il y a King.
2007, il y a Ice T.I.P.
Ouais.
2008, Paper Trail, qui est son plus gros succès.
Ah ouais, c'est vrai, c'est pas forcément.
Il y a quand même un morceau, alors ça me tue, quoi. Le morceau avec Rihanna, tu sais, le tube
Life,
avec.
Samplé de Dragostadinte.
Dragostadinte, voilà.
Incroyable tube.
C'est un peu triste que ce soit ta plus grosse vente, cet album, parce que c'est quand même. Enfin, Trap Music et Urban Legend sont vraiment.
Très lourds.
Très très lourds, quoi.
C'est vraiment, genre, pour le coup, sonoristiquement, si ça se dit. C'est la définition de la trap, quoi.
En tout cas, c'est le premier à utiliser le terme trap pour parler de musique. C'est pour ça que
Donc ça, c'est dans son deuxième album. C'est dans son deuxième album en 2003, parce que Gucci Mane, lui, c'est en 2005, il sort Trap House.
Voilà, alors Gucci Mane, il a plus peut-être plus d'influence sur les rappeurs qui vont venir après. On va dire que le son trap va plus se définir avec lui, mais le concept, ça vient plus de Tiaï.
Dans son deuxième album. Donc.
Dans son deuxième album, mais enfin, pas non plus tant de différence que ça entre son deuxième et son premier. C'est juste que dans le deuxième, il appelle ça trap musique et là, clairement, ça fait.
Du coup, parce que du coup, on parle de trap depuis le début, mais on n'a pas donné les caractéristiques du coup de ce sous-genre, ce style.
Moi déjà je vais donner une petite définition parce que c'est vrai qu'on parle de G-Funk, on sait que c'est du rap un peu gangster funk, ce genre de choses, mais la trap c'est quoi ?
Les noms veulent dire des choses aussi.
Voilà. Et en fait, trap en anglais c'est le piège. Et en fait, ce qu'ils appellent le piège eux aux États-Unis, c'est des maisons squattées en fait à Atlanta où ils cuisinent du crack qu'ils revendent. Ouais, les trap aussi exactement. Et en gros, leur délire c'était on a une maison, on cuisine du crack dedans. On le vend et on a un studio à l'étage d'en dessous pour blanchir l'argent. Et du coup, on est dans le piège, on est dans la trappe. Et...
Sachant que c'était Atlanta, de la configuration de la ville fait que c'est une grosse plaque tournante parce qu'en gros, toutes les grosses routes qui mènent aux différents états passent par Atlanta. C'est ça qu'ils expliquaient. Donc, c'était pour ça que c'était aussi un des lieux. Enfin, vraiment, au niveau drogue, c'était un truc énorme.
Et puis, c'est vraiment marrant parce que, bon, pour enfin, refaire des parallèles encore, à New York, t'as des grosses project houses, genre un peu des cités comme nous en France, mais dans le sud c'est plus des espèces de petits lotissements de maisons un peu. C'est des trucs sur un. Enfin ouais. Ou soit. Enfin, il n'y a pas d'étage, ou soit il y en a un seul. Et c'est des petites maisons comme ça côte à côte, mais t'as là les mecs qui traînent devant ces maisons-là. Bon, ils vendent de la drogue aussi d'ailleurs.
Donc musicalement, qu'est-ce qui va influencer ces mecs-là
Bah en fait, Tia il a été produit. Enfin, Vachement est affilié au producteur DJ Toomp. Si vous vous souvenez bien, si vous avez une super mémoire, on a parlé de DJ Toomp lors de notre émission sur la crunk, puisque c'était un. Lui faisait partie du mouvement Atlanta Bass, donc un peu le son influencé de Miami.
Donc on a parlé aussi
et qui a ensuite donné naissance à la crunk. Ouais, on a aussi parlé
la
de Miami.
La crunk, on en a parlé, la Miami Bass, on en a parlé.
Ouais, non, là, on recoupe pas mal de choses. Ce qui me permet de. Juste pour le plaisir de rementionner le fameux DJ Smurf, aka DJ Schtroumpf, donc de l'Atlanta Bass. Donc on a ce son-là un peu. La trappe, c'est du coup très lié à Atlanta, donc Tia qui vient d'Atlanta. Et c'est un peu, finalement, géographiquement, c'est un peu au carrefour, hein, tu vois, d'aussi à l'est, il y a Miami, à l'ouest, il y a Houston, il y a la Nouvelle-Orléans. Donc en fait, ça, c'est là où il y a un peu tout qui se mélange, la trappe, ça prend un peu, ça emporte tout, quoi. Donc pour donner un peu la formule de ce que va être le phénomène TI et après la trappe, ce qui va un peu suivre, on a à la fois le côté grosse basse donc, qui est apporté par DJ Toomp, les productions, etc. Très très lourd, très synthétique, la TR-808 à mort. Et puis un peu aussi dans la façon de rapper de TI et après des autres rappeurs qui vont suivre. L'accent, tu l'entends direct, quoi. Même si tu parles pas super bien anglais, t'entends tout de suite que le mec il a un accent, il mange ses mots à mort, quoi. Il y a le côté un peu, tu sais, comme UGK, ce que disait Momo, c'est-à-dire que c'est très street, c'est très gangster, mais en même temps, c'est un peu, tu vois, il incite pas à la violence, tu vois, il dit juste. Sa réalité,
oui,
mais il est un peu en mode grand frère, quoi, tu vois.
Voilà, c'est ça, mais il raconte ce qu'ils font et la drogue, etc. à sa place. Ah, au niveau musical, il y a aussi les hats, quoi, le Charleston. Les hats, enfin, là, tu le
dans la production,
dans,
ouais.
Ouais, dans la production, déjà dans son album Trap Music sur le son qu'on écoutera après, etc. On entend un peu. Moi, je trouve que c'est ça aussi la marque vraiment trap aujourd'hui, quoi, les genre des espèces de triolets là, de Charlie super proche, et qu'on entend déjà dans cet album.
Il y a pas mal de synthés, enfin pas tout le temps, mais il y a pas mal de synthés aussi qui sont utilisés. Je pense que c'est un peu dérivé, mais influencé du crunk.
Ouais, c'est ça. Ouais. Et après, au niveau du rap, ce que je disais, c'est qu'il y a aussi le côté un peu, quand même, l'inclinaison à la mélodie, quoi. Comme Pimsy, il avait un peu ça, et dans Outkast, il y avait un peu ça. UGK, ils appelaient ça les country rap tunes, tu vois, donc il y a un peu tout ce truc rappé, chanté, qui sera encore plus le cas après dans les années 2010, mais tu vois, je trouve que déjà TI, dans sa voix et dans la façon dont il l'utilise pour rapper, il y a un truc très, très mélodique, quoi.
Ok, et donc lui, c'est un gangster ?
Bah ouais, carrément, c'est un gangster. C'est des hustlers, quoi, comme ils s'appellent.
Non, parce que voilà, il y a des mecs qui rappaient un peu la drogue, etc., et qui n'étaient pas forcément dedans, mais lui, quand même.
Si on en croit sa biographie et ses dires, ouais, il s'est quand même allé plusieurs fois en prison. Mmh. Et ce qui est réel, parce que, de mémoire, il y a quand même pas mal d'affaires avec la justice, qui, je pense, ont quand même aussi servi à sa notoriété. Il y a eu des trucs avec sa femme, où il a été chopé avec de la drogue, possession illégale d'armes. Avant de vraiment commencer le rap, il était dans le deal, il a fait de la prison. J'ai lu une anecdote très drôle là-dessus, en gros, où il était tellement dans un lifestyle de dealer, quoi, que d'expliquer qu'il y a son oncle qui l'appelle, qui lui fait tiens, viens, on va manger chez ta tante, genre fausse réunion de famille, etc. Et en fait, il déboule là-bas, et ils ont essayé de le forcer à signer une assurance vie pour qu'il puisse. Parce qu'il pensait qu'il allait se faire tuer, qu'il allait crever à tout instant, parce qu'il menait une vie dangereuse, et j'aurais voulu le faire signer une assurance vie au cas où pour payer son enterrement, etc. Ce qui est un peu foufou. Et après, quand il a commencé le rap, je sais qu'il était entre deux, en train de faire un peu des folies dans la rue, mais il commence à enregistrer, etc. Et ouais, chez Tia, il y a un côté. Peut-être un côté très smooth, genre détendu, mais quand même genre dur en même temps. Je pense que c'est ça qui fait aussi son succès, tu vois, genre strict, mais doux en même temps.
Et du coup, ce deuxième album, il fait quoi? Il cartonne au niveau national ou localement
ça commence à prendre. En tout cas, il y a le fait. Enfin, on verra bien. En termes d'influence, le terme trap music, déjà ça sera retenu, voilà, ça aura marqué tout le monde, et du coup ça deviendra officiellement un vrai truc. Après, il perce vraiment avec les albums King et en 2006 et Paper Trail en 2008, je crois.
Ouais, 2008.
Du genre DJ Toom derrière.
Je pense que même déjà un peu
moins. Un peu moins,
ouais, mais DJ Toom, par contre, il est parti travailler avec. Un autre rappeur qui est un ambassadeur de la trap qui s'appelle Jeezy, dont on vous parlera plus tard. Mais même avec Urban Legend, il avait déjà eu un premier succès comme national, c'était Bring Him Out, qui est un sample d'une chanson de Jay-Z. C'est produit par Sweet Beats. Et ce qui est marrant, c'est que Sweet Beats a utilisé deux fois le même sample pour et le morceau de T.I. et un morceau de Cassidy. C'est exactement le même sample, sauf que les chansons ne ressemblent pas forcément. Et c'était drôle parce qu'ils sont sortis quasiment en même temps ces deux trucs. Mais c'est vrai que c'est avec King où là il y a Why You Wanna et What You Know About That, produit par DJ Toom.
Le son qu'on va s'écouter tout à l'heure a eu un peu, il a été pris dans Need for Speed, je crois.
Ouais, 24.
On va s'écouter après, il est rentré dans une playlist d'un jeu de voiture assez connu.
Ouais, assez connu, ouais. Bah, le premier à le faire, c'était. Je crois que c'était Lil Jon. Mais ouais, en fait, il y a eu d'ailleurs toute une vague de jeux de voitures qui reprenaient énormément de sons du sud, c'était marrant. Faut croire que ça allait bien avec, mais. Mais bon, on n'est pas là pour parler de jeux de voitures dans l'absolu, et il y a un autre truc à noter avec T.I. aussi, c'est qu'il a réussi vite à s'accrocher au wagon grand public, parce qu'il a collaboré avec Destiny's Child sur Toy Soldier, le titre, et avec Justin Timberlake au moment où il explose avec Timbaland qui le remet sur le devant de la scène. Donc il a emmené et sa carrière vers le mainstream, en tout cas le grand public, et il a réussi à un peu à mettre la trap dans des chansons plus R&B ou plus mainstream, et ça c'est cool.
Ok, donc là il lance la voix de la trap,
ouais,
à Atlanta, qui va bientôt déferler sur les États-Unis.
Qui n'a pas fini de faire
les records, on est en plein dedans.
Il y a quelques mastodontes, on parlera du coup dans la prochaine émission, on vous invite à l'écouter. Des Gucci Mane, des
Jeezy, Young Thug.
Voilà, on reparlera sûrement de T.I. à un moment ou un autre qui reviendra par là. C'était le premier épisode du coup sur la trap d'Atlanta. On vous donne rendez-vous le mois prochain. N'hésitez pas à l'écouter nos émissions précédentes. Sur Facebook, notamment Deeply Rooted de l'émission, mais on est aussi présent sur les plateformes de streaming habituelles. Et voilà, vous avez quelque chose à rajouter?
Vive le Sud, hein, quoi qu'il arrive.
Jojo?
Ouais, j'ai surtout très, 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 très hâte d'aborder le sujet Gucci Mane. Donc à la prochaine, les amis, on va se régaler.
Ça va être dur de faire des petites parties sur Gucci Mane alors qu'il y aurait tant à dire.
Je pourrais faire toute la saison Display Routed sur Gucci Mane.
Allez, on vous laisse sur un son de T.I. avec 24 justement, et on vous dit au mois prochain.
Yes,
ciao.
Ciao, ciao.